Bonjour, ici la Voix de la librairie, enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste située au 565 rue Saint-Jean à Québec. La Voix de la librairie est enregistrée en direct une fois par mois, le premier lundi du mois, et c'est diffusé en différé, sur CKIA un mercredi sur deux à 15h30, donc bienvenue aux auditeurs de CKIA. Ce soir, toute l'émission sera consacrée à la question de la liberté. On va parler de liberté en conte, en musique, en lecture, et on va essayer un petit peu de réfléchir ensemble sur divers aspects de cette notion complexe, difficile à bien cerner. D'abord parce qu'elle est utilisée à toutes les sauces. Elle est revendiquée par à peu près tout le monde et pour justifier à peu près n'importe quoi. De nos jours, tout le monde veut être libre. Tout le monde réclame la liberté, mais parfois, on ne sait pas toujours quoi en faire quand on l'a. En plus, il y a différents types de liberté. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser, il y a aussi la liberté de circuler. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y en a été souvent question durant les manifestations du printemps étudiant. Les automobilistes réclamaient la liberté de circuler et se trouvaient bloqués par les manifestants et on ne savait plus quelle liberté avait la priorité sur l'autre. On aura aussi une nouveauté à l'émission à partir d'aujourd'hui. On va avoir une radio-fiction qui ne parlera pas de liberté. C'est la seule exception là, à l'émission d'aujourd'hui. Mais puisque c'est une fiction qui va revenir à chaque émission, elle ne sera pas en lien avec les thématiques. Et ce sera une découverte pour nous de, à chaque fois, suivre les péripéties de Mimi et Coco grâce à un texte de Adrien Dugas. Et il me fait plaisir maintenant de vous présenter un nouveau collaborateur à l'émission. On a quelqu'un qui va être responsable du choix musical, qui va faire beaucoup d'efforts pour que ce soit en lien avec le thème. Et il s'agit d'un habitué de la radio communautaire à Québec. Je vous présente l'homme qui a vu l'homme.
Bien, salut madame, ça me fait un grand plaisir de partager ces moments de radio avec vous.
L'homme qui a vu l'homme va aussi faire la mise en onde.
Eh bien oui, je reviens à mes pitons. Ça faisait quelques années que j'avais abandonné ça, mais ça me tentait. Là, quand on m'a fait la proposition, j'ai dit « Tiens, c'est le bon moment, on y revient. »
On peut en profiter pour mentionner que tu as aussi un site web.
Eh oui, c'est ça. Je vais vous le donner par écrit, mais vous allez pouvoir le trouver sur le site Internet de CKIA et de Radio Fiat Lux. Alors, c'est 6h du matin. Qu'on écrit bout à bout en bon français. Point. L'homme qui a vu l'homme, ça on l'écrit au son, alors le plus court possible. LOMKIAVULOM.net. Je vous invite à aller écouter ça. À tous les matins, je vous propose une nouvelle pièce musicale.
Alors aujourd'hui, on va parler de liberté. Tu as fait une sélection musicale en conséquence. Qu'est-ce que tu nous as choisi?
Ben, la première pièce qu'on va écouter, c'est Ma liberté, alors c'était pas trop difficile à trouver, effectivement, c'est la chanson de Georges Moustaki. Oui. Et j'ai choisi l'interprétation de Serge Reggiani, qui me semble plus vivante.
C'est la plus connue aussi, hein? Je pense qu'on connaît davantage la version de Reggiani que celle de Moustaki, qui en fait est l'auteur.
Oui, parce que Moustaki l'a fait beaucoup après que Reggiani l'ait popularisé.
Ah oui? C'est oui. Reggiani qui l'a popularisé en premier?
Oui, oui.
Ben, tu vois, je savais pas ça, j'apprends quelque chose. En quelle année?
Et mon Dieu, belle question.
Moi, j'ai le tour de poser des questions qu'il ne faut pas.
Je dirais à peu près 65.
D'accord. Bien, alors on écoute.
Si je me souviens d'à peu près de l'âge que j'avais quand je l'ai entendu la première fois.
ça devrait être un bon repère.
Alors on écoute M. Reggiani.
Ma liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
Merci à l'homme qui a vu l'homme pour cette pièce sur la liberté de Reggiani. Lorsque j'ai su que nous allions parler de la liberté, je suis allée faire un tour sur le site de Philosophie Magazine. Ils ont une section qui s'appelle « Notions ». Et je suis allée voir ce que Philosophie Magazine disait de la notion de la liberté. Et c'est un texte qui a été écrit par Nicolas Tenaillon. Voici ce qu'il dit. La liberté est d'abord une notion métaphysique. L'homme est-il libre ou déterminé par des contraintes qu'il ne maîtrise pas? S'il est la cause première de ses choix, on dit qu'il possède un libre arbitre. Mais un tel pouvoir est difficilement démontrable. C'est ensuite une notion morale. Pour Kant, la liberté, ne pouvant être démontrée, doit être postulée afin que la morale soit possible. En effet, seul un être libre peut choisir entre le bien et le mal. Pour devoir, il faut d'abord pouvoir. Réciproquement, selon Kant, seul un être moral peut être libre. La liberté est alors synonyme d'autonomie. A contrario, celui qui veut jouir sans contrainte morale est appelé libertin. C'est enfin une notion politique. On oppose ici le citoyen libre à l'esclave. Lorsque l'État exerce peu de contraintes sur l'individu, on parle d'un État libéral. Si l'individu estime que les lois sont trop contraignantes et tue sa liberté, il lui arrive de contester l'État sous toutes ses formes. Un tel individu est dit libertaire ou anarchiste. Toujours sur le site de Philosophie Magazine, on nous donne ici quelques réflexions de, disons, trois philosophes qui ont marqué l'histoire autour de la notion de liberté. Il s'agit de Spinoza, de Montesquieu et de Sartre. Spinoza a traité davantage, disons, du libre arbitre et d'un point de vue métaphysique. Spinoza conteste l'idée que l'homme possède un pouvoir grâce auquel il échapperait aux lois de la nature. Pour lui, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il n'a pas donc de libre arbitre. Sa liberté réside dans la connaissance de la nécessité, c'est-à-dire dans l'accès aux idées adéquates par rapport au monde. Est libre celui qui agit conformément à sa nature. Notre puissance d'agir, élevée à son maximum, réglée donc par la raison, est ce qui constitue notre liberté, selon Spinoza. Montesquieu, lui, a parlé d'une liberté davantage de nature politique. Un penseur libéral, Montesquieu est le défenseur de la séparation des pouvoirs. Car là où l'exécutif, le législatif, et le judiciaire sont concentrés dans la même main, règne, dit-il, un affreux despotisme. Il ne croit pas à un régime de pure liberté, car la liberté même a paru insupportable à des peuples qui n'étaient pas accoutumés à en jouir. Enfin, c'est Montesquieu qui le dit. Hein. C'est ainsi, dit-il, qu'un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans un pays marécageux. Jugeant qu'il n'y a rien de plus insolent que le peuple, Montesquieu veut pour la France non pas une république, mais une monarchie parlementaire. J'en conclus que Montesquieu considère que la liberté, ce n'est pas fait pour le peuple. Et enfin, Sartre, lui, a parlé d'une liberté que je dirais plus psychologique. Il parle de l'idée de se sentir libre. Pour l'existentialisme, l'homme est condamné à être libre. Il ne peut pas ne pas choisir. Refuser de choisir, c'est refuser de ne pas choisir. Seul être pour qui l'existence précède l'essence, l'homme n'est donc que ce qu'il se fait être. Il est le produit de ses choix. Certes, compagnon de route du marxisme, Sartre ne nie pas que l'homme subit de fortes déterminations historiques, qu'il naît in situ, en situation. Mais il estime que chaque homme peut toujours s'arracher la situation qu'il n'a pas choisie. En terminant, j'aimerais vous donner deux exemples célèbres de la définition du libre arbitre qui sont passés à l'histoire. D'abord, il y a l'âne de Buridan. Ça a été écrit au Moyen Âge. Buridan est un philosophe du Moyen Âge. Il s'est demandé ce qui se passait si on plaçait un âne à une équidistance d'un seau d'eau et d'un sac d'avoine. Alors Buridan conclut que l'âne ne bougera pas et mourra de faim et de soif, parce que les motifs de son action possible s'annulent mutuellement, et que tel n'est pas le cas de l'homme qui, lui, en l'absence de motifs décisifs, peut encore se décider à agir grâce à une force qui n'a pas besoin d'autre cause qu'elle-même, le libre arbitre. Seul l'homme possède donc le libre arbitre. Il y a un autre exemple qu'on nous donne, qui j'ai trouvé moi très amusant, c'est tiré d'un roman de Balzac, dans le roman Les Chouans, qui a été écrit en 1829. Balzac décrit la scène suivante. Pour prouver son amour à Marie de Verneuil, le marquis de Montauran n'hésite pas à tenir un charbon ardent tout le long de sa déclaration d'amour. Cet acte illustre bien la théorie de Maine de Biran. Maine de Biran, c'est un philosophe à peu près de la fin du 18e siècle, sur le sentiment de l'effort volontaire comme preuve de liberté. C'est lorsque nous résistons à notre corps, qui nous commande un mouvement réflexe, ici pour éviter une brûlure, que nous expérimentons notre liberté. Le courage manifesté par le marquis de Montauran témoigne d'un engagement libre et indéfectible. Voilà. Alors, c'était un petit peu une manière de faire une mise en place, disons, de mettre la table. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Je sais que c'était peut-être un petit peu aride comme début, mais vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus accessible en avançant avec l'émission. Et pour aller d'ailleurs vers quelque chose de plus léger ou en tout cas de plus digeste, je vais vous laisser entre les mains de Bernard, notre conteur en résidence, parce qu'on a un conteur en résidence maintenant ici à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Il va nous faire un conte sur la liberté. Mais avant, on va faire une pause musicale. On va aller retrouver L'homme qui a vu l'homme. Bonjour.
Eh bien, bonjour. La pièce musicale, ben, c'est un choix de Bernard, justement. Je ne sais pas si ça a un rapport avec son conte, on le verra bien ensuite. La pièce qu'il a choisie, c'est « L'enfant et l'oiseau lire ». C'est interprété par les quatre barbus, ça a été fait dans les années 50. En fait, c'est un poème de Jacques Prévert qui s'intitule « Page d'écriture ». Alors, on est prêt à écouter ça.
Répétait-il le maître.
2 et 2, 4, 4 et 4, 8 et 8 et 8 françaises. Mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle.
Sauve-moi, joue avec moi l'oiseau.
Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant.
2 et 2, 4, répétait-il le maître.
Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui.
4 et 4, 8. et 8 font 16.
Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font?
Ils ne font rien, 16 et 16, et surtout pas 32, de toute façon, et ils s'en vont.
Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre,
et tous les enfants entendent sa chanson.
Entend de la musique,
et huit à leur tour s'en vont, et quatre et deux
à leur tour fichent le camp,
et un ne font ni une ni deux,
un et un s'en vont également.
Et l'oiseau l'y rejoue, et l'enfant chante,
et le professeur crie.
Quand vous aurez fini de faire le beat,
mais tous les autres enfants écoutent la musique,
et les murs de la classe s'écroulent tranquillement,
et les vitres redeviennent sable.
Bonjour à tout le monde. D'abord, je m'appelle Bernard, je vais vous conter des histoires. Mais avant de conter une histoire qui a l'élan d'avoir une vraie histoire, je vais vous faire une petite parole de sagesse qu'on a pris dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est lié au concept de liberté en quelque sorte, vous allez bien voir, ça commence comme ça, dans le fond. C'est Aristote dit qu'il y a trois sortes d'amitié. Les amitiés d'intérêt. Hein? Quand on est une amitié d'intérêt, souvent, on est comme pas bien ben libre parce qu'on doit quelqu'un, on doit quelque chose à quelqu'un si nous le faisons et vice-versa. L'amitié d'intérêt, donc, première sorte d'amitié. Deuxième amitié, les amitiés de plaisir. Ça, c'est pas le plus désagréable, mais... Et la troisième sorte d'amitié, les amitiés de cœur. Bon, et Aristote dit que l'amitié d'intérêt, ça dure ce que l'intérêt dure, c'est évident. Les amitiés de plaisir, ça dure ce que le plaisir dure, donc c'est pas nécessairement très très long. Et les amitiés de cœur durent toujours, mais possèdent intrinsèquement, ça veut dire en dedans, hein, mais avec les intérêts et le plaisir, mais sans qu'ils en soient les moteurs. Fait que réfléchissez à ça. Fait que pour être libre, il ne faut pas peut-être trop avoir des amitiés d'intérêt juste ça. En tout cas, si on se guire là-dessus, ça n'ira pas bien ben dans la liberté. Ah! Alors, le petit conte que je vous réservais, c'est un petit conte, je ne sais pas ce que je l'ai pris, je l'ai entendu plusieurs fois dans des festivals un peu partout. Je le fais à ma sauce, évidemment, puis j'arrête de parler, puis je vous le fais. C'est l'histoire d'un roi. Évidemment, les histoires ont toutes des rois, la plupart. Le roi a quelque chose dans une de ses pièces du château, une pièce gigantesque avec des dorures partout sur le bord des fenêtres, sur les grands miroirs. Et dans le milieu de la pièce, une table en chêne avec un plateau de marbre. Et sur cette table-là, il y a une cage. Une cage en or, évidemment. Et dans cette cage-là, un oiseau. Un oiseau avec les plumes de toutes sortes de couleurs, mais ce n'est pas son plumage qui fait qu'il est si précieux pour le roi. Cet oiseau-là parle. Il parle, puis en plus de parler, ce n'est pas comme un perroquet, il ne répète pas, il est capable de penser. Il peut parler avec le roi et établir une relation d'intelligence, si vous voulez bien. Et le roi, à toutes les fois qu'il y a des décisions à prendre, des grandes décisions internationales, il va voir son oiseau puis il parle avec. Puis, il ressort de là lumineux d'idées et de résolutions parce qu'il a pu réfléchir intensément avec son oiseau. Il l'aime. Le jour de l'anniversaire, ça fait un an que l'oiseau est avec lui, il va voir l'oiseau. puis il lui dit, oiseau, je peux pas vivre sans toi. C'est extraordinaire tout ce que je peux faire avec toi. Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. N'importe quoi, c'est à toi. N'importe quoi, je suis le roi. Ce que tu veux, c'est à toi. L'oiseau réfléchit. Et au bout de pas si longtemps, dit, mon roi, j'aimerais avoir la liberté. Et le roi est comme un peu ébaubi, comme on dit. Il aurait donné n'importe quoi, mais la liberté, ça équivaut qu'il va perdre son oiseau. T'as pas d'autre chose que tu voudrais, l'oiseau? N'importe quoi, mais pas ça, s'il vous plaît. Et l'oiseau demande quelque chose de plus accessible qui se mange. Mais dans son cœur, l'oiseau voudrait bien avoir la liberté, mais le roi n'est pas prêt à lui donner. Et au fil des mois qui viennent, à chaque fois que le roi parle avec l'oiseau, il repart avec le bonheur, de la bonne idée et tout. Et dans son excès de bonne humeur, il dit à l'oiseau plusieurs fois, « Qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Je te le donne. » À chaque fois, l'oiseau commence tout le temps par dire « J'aimerais avoir la liberté. » Et le roi, et petit à petit, le prend de plus en plus mal, perd patience, il n'est pas loin de la colère, et l'oiseau comprend qu'il ne faut plus qu'il demande la liberté. Alors, au fil des mois et des mois, il demande des choses et d'autres, des choses de grande valeur pour montrer au roi qu'il va donner quelque chose qui vaut de la peine et tout. Et il arrive une date, un jour, assez peu commun, le roi va partir en voyage, loin, aux Indes. Et le roi dit, « Mon oiseau, je m'en vais dans le pays d'où tu viens. Si tu me dis où est ta famille, je pourrais aller la saluer, lui donner des nouvelles de toi. » Et au fil de la conversation, l'oiseau a une idée. Il dit au roi, « Dis à ma famille dans telle forêt, dans tel arbre, tu vas voir, ils sont tous là. Demande-leur, donne-leur de mes nouvelles. Dis-leur que je suis dans une belle cage dorée, les l'or qu'il y a partout, que tu me donnes tous les cadeaux que je veux, etc., etc. » Et le roi, entendant tout cela, s'en retourne à son voyage et part pour des mois et des mois. Et juste avant qu'il revienne, après tous ses voyages diplomatiques, il va voir l'arbre dans telle forêt annoncée par l'oiseau. Et il voit dans l'arbre gigantesque tous les oiseaux de la famille de son oiseau de toutes les couleurs dans son château. Ils sont là dans l'arbre. Il les admire et ose prendre la parole en leur disant, « Oiseau, j'ai chez moi un oiseau qui est tout semblable à vous. » Il parle le roi, jusqu'à temps qu'il leur dise à tous dans quelle cage son oiseau vit, dans quelle pièce et tout, et tout, et tout. Et quand il a fini son harangue, le roi, il voit de la plus haute branche un oiseau tombé comme une pierre à ses pieds. Et le bruit que ça fait, le roi se précipite. L'oiseau est mort. Le roi regarde l'arbre avec tous les oiseaux et s'en va tout dépité, si c'est un mot qui se dit, et il s'en retourne chez lui au château. Et rendu au château, il va voir son oiseau. Après tout ce qu'il a à faire, c'est la dernière chose qu'il veut aller voir, l'oiseau, pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé. Mais il finit par être devant l'oiseau et lui dire... Voilà. Il lui raconte tout. Et quand l'oiseau entend qu'un oiseau est tombé raide mort en avant de lui, l'oiseau tombe à la renverse dans sa cage au fond, comme mort. Le roi ouvre la cage, prend l'oiseau, il souffle dessus. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend rien? Son oiseau est mort. Il va à la fenêtre, il ouvre la fenêtre, avoir de l'air pour l'oiseau, le met sur le bord où est-ce qu'il y a du soleil. Oiseau, réveille, mais t'es mort, ça se peut pas. Puis, le roi voit l'oiseau s'envoler directement sur une branche inaccessible à la fenêtre du château. L'oiseau regarde le roi et lui dit, « Merci, mon roi. Tu m'as amené le message qu'il fallait pour me libérer. Maintenant, j'ai la liberté. Sache une chose, mon roi, j'ai deux leçons à t'apprendre maintenant. Il vaut mieux souvent, première leçon, que le messager ne sache pas le message qu'il porte. Et deuxième chose, mon roi, la liberté, ce n'est pas une chose qu'on demande. » c'est une chose qu'on prend. Merci, Catherine.
Mon micro, ah voilà, mon micro vient d'arriver. Merci beaucoup. On est privilégiés de t'avoir pour nous faire un conte sur la liberté comme ça. C'était Bernard Grondin. Bernard qui est un conteur dans la vie, qui est notre conteur à nous ici en résidence. Est-ce que tu as des spectacles prochainement, Bernard?
J'en ai, mais c'est pas ici à Québec. J'en ai un au mois de novembre, je pense que c'est le 15 ou le 16 à la librairie Saint-Jean-Baptiste avec Isabelle Saint-Pierre et Joanne Roussy. Une fille du coin de Sept-Îles, du Nord, et Isabelle qui vient de Montréal, ce sera un trio.
OK.
Mais autrement, j'ai des choses, mais pas à Québec. Là.
Pas à Québec.
En France, on va faire une petite tournée. Là.
Bien, merci encore.
Merci.
Alors, on va faire une pause musicale avant de passer aux publicités de CKI. Ah, ben, je pense qu'on est déjà rendu aux publicités de CKI. En fait, il reste une minute. Bien, si j'ai une minute, je vais vous lire. Une petite citation de Émeric Monville. Vous me direz si c'est un lien avec la liberté. Moi, je trouvais que ça avait un lien avec la liberté. Le simple souci de soi, s'il ne passe pas par une lutte politique, pose problème. Bon, il faut y penser. Hein? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous chercherez le lien avec la liberté. L'homme qui a vu l'homme?
Oui, ben une petite pause musicale.
On fait une petite pause musicale, puis on va se refaire un micro avant pour présenter la pièce pour l'entrevue de Patrick.
Excellent. Alors, on s'en va faire un petit tour au Japon. Un groupe qui s'appelle Katun. Alors, si vous comprenez pas, c'est tout à fait normal. C'est en japonais.
Cheese.
Oh, c'est un petit beat très agréable, ça. Merci. On est de retour pour continuer notre réflexion sur la liberté. On va poursuivre avec Patrick Desbiens, qui participe aussi à l'émission L'Alternative économique à CKIA et qui a réfléchi sur la manière dont on pouvait penser la liberté aujourd'hui. Mais avant, on va faire une pause avec L'homme qui a vu l'homme. Qu'est-ce qu'on nous a préparé?
Alors, on y va avec M. Jean Ferrat, le chanteur communiste.
Alors, ça va être une liberté politique?
Oui, un air de liberté. Alors, c'est une chanson très, très politique. Ça traite de la France et de l'Indochine.
Ah oui.
Alors, ben, on peut y aller tout de suite avec ça. Place à M. Ferrat.
On écoute.
Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh. Allongés sur les rails, nous arrêtions les trains pour vous et vos pareils. Nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, vous continuez. Mais regardez-vous donc un matin dans la glace, patron du Figaro, songez à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet.
Merci beaucoup à L'homme qui a vu l'homme pour cette très belle pièce de Jean Ferrat. Alors, on est en studio avec Patrick Desbiens. Bonjour, Patrick.
Allô.
Patrick est étudiant en sociologie. Tu es en train de terminer une maîtrise, je pense.
Oui, exactement. Ouais.
Mais il a fait un effort pour faire une réflexion philosophique aujourd'hui.
Oui, mais c'est quand même ancré avec un fond sociologique. Oui.
Bien. Alors, écoute, on t'écoute, Patrick.
Ben, en fait, ce que je vais commencer, ça va beaucoup recouper ce qui a déjà été dit depuis le début. Bon, mais je vais y aller pour commencer aussi par, disons, le sens commun. Tout le monde sera d'accord avec moi si je dis que la liberté individuelle, mais c'est une réalité qui va de soi. Les individus dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales en tout cas, sont libres de décider de leur personne. Ils sont libres d'agir comme bon leur semble, en autant que ça ne nuise pas aux autres.
Hein. Mm. C'est ce qu'on aime croire, en tout cas.
C'est ce qu'on aime croire, oui. On a l'habitude, justement, de dire que la liberté des uns commence où celle des autres termine. Par exemple, on n'est pas libre de tuer son voisin, par exemple, parce qu'il y a des règles de société établies qui servent à maintenir une certaine cohésion sociale, un certain ordre social. Donc, la liberté, dans l'absolu, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé non plus, de toute façon. C'est donc dire que si on est libre, si chaque individu est libre, il ne l'est jamais totalement, dans l'action en tout cas. Parce que dans la pensée, par exemple, on est tout le temps libre où on peut... c'est là qu'il y a une certaine sorte de liberté absolue. Encore là, il y a des réserves à mettre là-dessus. On est libre de penser ce qu'on veut. Ça nuit à personne de penser. Ça nuit à personne. Ça nuit pas à la cohésion sociale de l'ensemble de la société. D'ailleurs, à ce que je sache, on ne peut pas condamner quelqu'un pour avoir pensé, pour avoir eu une mauvaise pensée. On peut, par exemple, condamner quelqu'un pour avoir mis ses pensées en parole, par exemple. Moralement, du moins, on peut le condamner moralement, mais aussi en vertu de la loi. On a juste à penser à l'animateur de Radio X, Jean-François Filion, qui avait perdu sa job pour avoir dit tout haut, en toute liberté, donc, ce qu'il pensait. Cela étant dit, on a juste à se rappeler la grande manifestation pour le droit de s'exprimer librement qui avait suivi son congédiement pour comprendre que la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'agir, bref, c'est une des valeurs fondamentales de nos sociétés. Le monde défend l'idée qu'on est libre. C'est même le slogan de cette radio-là, « Liberté, j'écris ton nom partout ». D'ailleurs, le nom de la station Choix Radio X, c'est un jeu de mots avec la liberté de choisir. C'est choisir ce que l'on veut, comme on le veut. C'est la liberté de choix, finalement, qui caractérise nos sociétés aujourd'hui.
Oui, c'est la liberté est effectivement, de nos jours, considérée dans le sens de la capacité de faire des choix. Possibilité de faire des choix.
C'est du point de vue individuel aussi qu'on comprend la liberté aujourd'hui.
Oui.
D'ailleurs, justement, pour bien comprendre comment on peut penser la liberté d'un point de vue individuel, il faut comprendre que il n'y a aucune liberté individuelle qui existe sans la propriété privée, sans un lieu d'expression de liberté individuelle. La propriété privée, c'est le lieu de la liberté individuelle, finalement. C'est le lieu dans lequel elle peut s'exprimer. Donc, par exemple, et la liberté individuelle, il faut la penser négativement, c'est-à-dire comme une perte de liberté. Du moins, c'est ce que je vais essayer d'éclaircir ici. La liberté individuelle, d'ailleurs, et ses droits analogues, les droits individuels, les droits à la différence, le droit à la vie privée, se présentent comme un repli sur soi, un repli qui fait sortir chaque individu de la société. Si on comprend que le long processus historique dans lequel on a été, c'était une sortie de la société. C'est comme si on avait mis la société peu à peu face à nous pour se replier dans la liberté individuelle.
OK. On oppose liberté individuelle à communauté ou à société.
Oui, ben c'est pas une opposition catégorique, disons, ou littérale, mais c'est quand même, disons que oui, il y a, c'est quand même une bonne opposition entre les deux, en fait. La liberté individuelle, c'est une sortie de la société. Ça doit se penser, d'ailleurs, comme une désocialisation. La liberté individuelle, c'est carrément une rupture du lien social et même du rapport au monde pour mieux le reconstruire après sous la forme du contrat, par exemple. Toutes les théories du contrat social partent de l'individu libre à la base. On pense à Rousseau, par exemple. Donc, c'est ça.
Aux penseurs modernes.
Exactement. Donc, l'individu s'est placé face au monde naturel, c'est face à la nature, face à la société, qui est la société qui, elle, nous contraint d'agir, finalement, selon les normes préétablies. Donc l'individu s'est sorti de la société pour devenir libre, mais donc, on n'a pas le choix de dire en même temps qu'il est désocialisé, c'est-à-dire libéré du monde qui l'entoure. Il faut comprendre comme ça la liberté individuelle, c'est-à-dire c'est une libération du monde qui nous entoure, comme un la société devient, dans ce cas-là, un environnement quelconque. Et c'est grâce à l'apparition de la propriété privée, donc, que l'on est libre d'un point de vue individuel. Lorsque l'on est dans son espace privé, c'est-à-dire privé du reste du monde, l'on peut faire ce qu'on veut. La propriété privée, c'est le lieu où tous les droits sont permis, même de s'auto-détruire, on dit. Une personne qui est dans sa liberté individuelle peut faire ce qu'il veut de lui-même, abuser d'elle-même, même s'auto-détruire. Il n'y a plus de normes qui nous contraignent de l'extérieur, finalement.
Oui.
L'exemple du bungalow et l'exemple de la banlieue américaine explique bien la manière qu'on conçoit la liberté aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer chacune des propriétés privées, une à côté de l'autre, et se dire qu'à l'intérieur d'une propriété privée, on agit comme on veut, mais la liberté des uns commence celle des autres, termine.
Oui. À ce titre-là, est-ce qu'on pourrait dire que l'accès à la propriété privée ou à la maison de banlieue, c'est une manière d'accéder à davantage de liberté que si t'es en appartement ou si t'es...
Mais c'est le sentiment qu'on veut donner, oui, en fait, en étant chez vous, dans un espace privé, dans un lieu sorti de la société, on a davantage l'impression d'être libre et on peut choisir, on peut faire des choix, puis on peut faire des associations contractuelles, par exemple, de façon plus a posteriori. C'est plus quelque chose qui contraint, qui nous contraint de manière a priori, par exemple. On n'est pas des êtres socialisés à la base.
Oui.
On socialise avec qui on veut, comme on veut, quand on veut. Finalement, fait que c'est une construction qui se fait de manière a posteriori, d'ailleurs. Ouais. Donc justement, il faut comprendre aussi que la liberté individuelle, ça correspond à une désocialisation, déresponsabilisation sociale, je veux dire. La question de la responsabilité, c'est vraiment pas étranger à l'idée de la liberté. L'individu libre est désocialisé, est responsable à son égard, nécessairement.
Oui.
Et non à l'ensemble de la société, puisqu'il est justement sorti de la société. Un individu libre se pense par rapport à lui-même.
Il n'a de compte à rendre qu'à lui-même.
Exactement.
Il n'y a pas de compte à rendre aux autres ou à un certain pouvoir. Il y a juste des comptes à rendre à lui-même.
Exactement. Et ça me faisait vraiment rire pendant le conflit étudiant, quand il y avait les carrés verts, par exemple, qui s'était dit que c'était parti un mouvement socialement responsable. C'était pour moi, ça faisait aucun sens. Au contraire, c'est une responsabilisation individuelle pour pouvoir avoir ses propres droits. Ça n'avait aucun rapport avec la société, finalement, leur affaire.
Oui, on a tendance à un petit peu mélanger les concepts aujourd'hui. Ça, c'est un problème assez répandu.
La liberté individuelle, il faut la comprendre comme un repli puis comme une sortie de la société.
Une sortie de la société.
Ouais, comme dans son sens négatif, finalement.
Oui.
C'est quoi ça veut dire, finalement, l'individu, la liberté individuelle?
Oui.
C'est comme j'ai dit tantôt, c'est une désocialisation, c'est une sortie de la société, c'est aussi une déresponsabilisation. Donc, c'est un enfermement dans la sphère privée. On doit se questionner sur les conséquences d'une telle conception de la liberté. Ouais. La liberté individuelle et la propriété privée, qui est sa condition de possibilité, comme j'ai dit tantôt, ça permet le marché, quelque part, ça permet le libre marché. Encore une fois, le libre marché doit se comprendre comme une déresponsabilisation collective à l'égard du sort de l'humanité, rien de moins. Parce que si on laisse faire le marché en s'en libérant, par exemple, le libre marché va dans le sens qu'il veut, en quelque sorte. Si on regarde, on fait un portrait un peu, on fonctionne comme une entente d'individus libres et désocialisés, responsables, oui, mais seulement par rapport à soi. On laisse faire le marché parce qu'il se régule très bien de lui-même, on dit.
On dit.
Ouais. Qui est responsable du sort de l'humanité dans ce cas-là? Personne, sinon tout le monde, mais jamais directement. Tout le monde par rapport à lui-même. Donc, on est supposé de comprendre que ça devrait être marché. Ça devrait aller...
Si chacun s'occupe de soi, si chacun est responsable de soi, normalement, tout va bien aller.
Normalement.
Et on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas bien.
On dit toujours, si chaque Chinois faisait nettoyer le devant de sa cour, la chine ne serait pas au complet.
Oui.
On est vraiment
dans cette... Mais ça, c'est vraiment la thèse de Radio X, là.
Exactement, ben oui. Totalement, oui.
C'est la thèse de la liberté individuelle. Chaque individu est responsable de soi, point barre.
Mm-hmm. Donc, dans ce sens-là, c'est ça, on se dit que si tout le monde était responsable de cette personne, comme je le suis, ça devrait bien aller. Bon.
Ouais.
Or, cette conception-là pose problème parce qu'il n'y a pas de prise de conscience globale. C'est une conscience de soi exclusive, finalement.
Mm.
Mais il faut aussi se comprendre comme un individu dans la société.
Oui.
Et déjà là, on sort de l'idée un peu de liberté individuelle. Sinon, on reste dans les luttes d'intérêts individuels et particulières. Donc, chacun veut protéger sa propriété privée. Chacun, comme là, on pense par exemple au débat sur les sables bitumineux, mais chaque parti veut défendre ses propres intérêts et non défendre l'intérêt collectif, l'intérêt, par exemple, de l'humanité, si je peux dire, qui elle-même est un être de nature qui doit vivre en harmonie avec la Terre.
Mais dans la société individualiste dans laquelle on vit, comment on fait pour penser la liberté autrement qu'au niveau individuel?
Ben ça n'existe pas vraiment. Mais en fait, on peut...
Au niveau des idées, ça existe.
Au point de vue des idées,
mais dans le vécu, c'est toujours une liberté individuelle. On est toujours dans la liberté individuelle.
C'est toujours une liberté d'agir, par exemple. Et c'est toujours une liberté aussi qui est, en quelque sorte, résumée à une liberté de choix. Une liberté de choisir, finalement. Mais quand on ne remet pas en question le monde dans lequel on est, le modèle de vie dans lequel on est, est-ce qu'on est réellement dans une liberté de choisir? Quand ton choix se limite entre... Quand on ne réfléchit même
pas...
Avoir un auto ou pas, si on réfléchit juste à quelle marque d'auto qu'il faut avoir ou quelle couleur d'auto que je veux, on n'est pas dans une réflexion qui est très loin par rapport à la liberté de penser, disons.
Alors, comment peut-on penser la liberté autrement?
Bien, pour penser la liberté autrement, je vais partir d'un concept, d'une distinction, en fait, que Hannah Arendt a fait. C'est une philosophe incontournable du 20e siècle.
Tout
Hannah
à fait.
Arendt, bon, a fait une distinction intéressante à propos de la souveraineté et de la liberté. Selon elle, les deux catégories se posent littéralement. Je la cite. « Dans les conditions humaines qui sont déterminées par le fait que des hommes, et non l'homme, vivent sur la Terre, la liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu'elles ne peuvent même pas exister simultanément. Là où des hommes veulent être souverains en tant qu'individus ou que groupes organisés, ils doivent se plier à l'oppression de la volonté. L'oppression de la volonté, c'est vraiment important dans cette citation-là. Que celle-ci soit la volonté individuelle par laquelle je me contrains moi-même ou la volonté générale d'un groupe organisé. Si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer.
OK, donc la liberté individuelle est en opposition avec la souveraineté.
Exactement, oui. Donc, quand on comprend cette opposition-là, on est en droit de se dire que ce qui décrit le mieux la réalité sociale, parce que l'idée d'avoir des concepts, finalement, c'est qu'ils répondent à une certaine réalité dans la vraie vie. Mais la liberté individuelle, la façon qu'on la comprend jusqu'ici, c'est une liberté c'est un concept qui est complètement abstrait, qui n'écrit aucune réalité réellement, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler davantage d'individus souverains ou de peuples souverains, à mon sens, en tout cas.
OK. Et ça serait quoi, un individu souverain?
Ben d'ailleurs, ben, pour terminer, c'est ça, moi j'ai fait référence à Michel Freytag, un sociologue québécois, et à son livre sur la liberté, ça s'appelle « L'abîme de la liberté, critique du libéralisme ». Bon, pour lui, la conception de la liberté individuelle, c'est complètement quelque chose d'absurde, justement, parce que c'est un concept qu'on dirait métaphysique en philosophie. La seule liberté qui prévaut, c'est la liberté de l'humanité. Là, je paraphrase beaucoup ce que lui dit, je me le réapproprie beaucoup, mais bon, quand même, je pense que ça permet beaucoup la réflexion dans un certain sens. Donc, c'est l'être humain qui est libre. Il faut comprendre dans ce sens-là. C'est l'humanité qui est libre et non les individus qui, eux, parce que eux, si on comprend le concept de souveraineté, doivent se soumettre à la responsabilité, à leur qualité d'être humain. Il faut qu'ils se mettent à la volonté de l'humanité de vouloir perdurer dans l'histoire, par exemple.
OK. Ouais. Concrètement, ce n'est pas facile à saisir. Hein?
Non, c'est quelque chose qui demande beaucoup de comment je dirais ça, c'est faut d'imagination par exemple. Ouais, il faut être assez imaginatif, mais bon, je vais essayer d'être clair dans mon explication. Donc, la liberté chez Michel Freytag, par exemple, se comprend comme l'idée de souveraineté chez Arendt. Être libre, c'est travailler à perdurer dans l'histoire de l'humanité. Être libre, c'est se réapproprier le monde duquel on est sorti, un peu comme le disait tantôt, c'était Spinoza, dans le fond, que vous citiez par rapport à ça. En étant des individus libres et désocialisés, ben, on ne fait pas ça, on se sort de la société, puis on perd toute responsabilité sociale, toute responsabilité en tant qu'être humain.
C'est qu'on se sent plus tenu de la solidarité ou du soutien aux autres. On n'a que du soutien à soi-même.
Mm-hmm. La solidarité, on va la reconstruire par les liens du contrat, par exemple, par des associations qu'on va faire avec qui on veut, comme on veut, finalement. Fait que, encore
donc,
là,
comment on peut penser une liberté de participation? En fait, c'est ça. Comment opposer la liberté individuelle, c'est une liberté d'être ensemble.
C'est ça, c'est la liberté de participer à la société. Donc, c'est ça, c'est des êtres souverains, dans le fond, qui participent à la société. Parce que c'est en participant au monde qu'on avance vers la liberté. La liberté, il faut que ça redevienne, en quelque sorte, un idéal, au nom de quelque chose qu'on agit. On agit au nom de la liberté de l'humanité. Donc, encore là, il faut se soumettre à la volonté. C'est ça que disait Arendt tantôt, à la volonté de l'être humain de vouloir continuer de vivre. Et en participant au monde, en le comprenant mieux. C'est vraiment en le comprenant, en se le réappropriant. D'ailleurs, justement, la question de l'éducation dans ce sens-là, c'est hautement primordial parce que celle-ci ça ne sert plus vraiment à former des travailleurs esclaves des temps modernes, j'ai envie de dire, au service du marché qui a toutes les qualités d'un dieu, tu sais, qui décide à notre place. L'éducation, dans ce sens-là, ça devient un ensemble d'êtres humains souverains. C'est la possibilité de devenir libre, non pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'humanité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est comme s'il y avait un grand être humain qui était l'humanité, qui, lui, veut continuer d'exister, qui, lui, veut se rendre... Ben, c'est ça, finalement.
Puis ça, c'est la version de Michel Freytag.
Oui, bien là, je le réapproprie beaucoup, mais quand même, dans les grandes lignes, c'est quand même ce qu'il dit, finalement.
Est-ce que ça rejoint l'humanisme?
Oui, en fait, de façon que je comprends Michel Freytag, c'est un sociologue qui fait une critique de la postmodernité, puis qui, en même temps, veut réaliser l'idéal moderne, c'est-à-dire l'idéal des humanistes, oui. La sociologie, dans ce sens-là, dans le même sens, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, c'est quand que la société réfléchit sur elle-même, la sociologie. C'est simplement ça. Puis c'est lorsqu'elle réfléchit sur elle-même qu'elle peut faire ses propres choix, qu'elle peut établir ses propres normes, qu'elle peut décider dans quelle société elle veut vivre. Donc, on avance vers une conception de la liberté qui devient, à mon sens, beaucoup plus réaliste, finalement. Bon, ben c'est ça. Mais si on parle d'être libre, dans ce cas-là, on ne parle plus d'être libre.
C'est là que ça devient une question de souveraineté.
On devient des êtres souverains, c'est-à-dire On accepte nos responsabilités face à la vie, puis on est souverain face à ça. Tandis que la liberté individuelle, elle, ce n'est qu'une bien pauvre version de cette responsabilisation-là, mm. puisque l'individu libre est toujours désocialisé.
Ouais.
Bon, c'est juste un aspect de la liberté que j'ai abordé aujourd'hui, mais je l'ai fait d'un point de vue quand même abstrait, mais c'était dans le but quand même de faire réfléchir à propos de l'idée que là, on est libre de penser le monde comme on l'on veut, mais est-ce qu'on le fait vraiment, finalement, avec notre conception de la liberté individuelle? Et c'est juste pour dire aussi qu'on peut faire les choses autrement, à condition d'être souverain, à condition de décider justement de la société, et non pas justement de se laisser aller aux lois du marché, parce que c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça.
Comme ça, puis ça pourra peut-être être différent plus tard.
Sûrement pas comme ça tout le temps, mais pourquoi, avec notre intelligence, avec notre conscience du monde dans lequel on est, on comprend de mieux en mieux la nature, on comprend de mieux en mieux les relations entre les êtres humains, pourquoi ne pas être souverain et agir librement?
Eh bien, merci beaucoup, Patrick. C'est une très belle réflexion. Pardon, en tout cas, moi, ça me fait réfléchir sur la sacro-sainte liberté individuelle qu'on brandit continuellement et qui peut-être a des effets pervers. Et on va faire une pause musicale, M. Bubé. On va continuer sur les effets pervers de la liberté individuelle et ensemble, après la pause musicale, oui. Et quelqu'un qui me fait 2 minutes. L'homme qui a vu l'homme.
Allez, pardon. On y va avec un duo qui nous vient du rock comme dans Rest of Canada, bien sûr. Le duo s'appelle Pacifica. Il est composé d'un guitariste dont j'ai oublié le nom, mais je ne peux pas oublier le nom de la très belle Sylvana Kane, qui est la chanteuse. Alors, la chanson qu'elle nous interprète, c'est « Libertad ».
Tried to run away from you, but in the end I feel I've gone nowhere. You're not the kind that's best for me, but I believe that you've got that something. Don't you know that you're not like everybody else? Can't you feel? Expecting one more mystery, I'm falling from the thought of my life. If you should stay, there's no point to this life if we don't risk it all away.
Libertad, libertad, libertad.
tried to run away from you, but in the end I feel I've gone nowhere.
Merci, l'homme qui a vu l'homme. Alors, je suis de retour avec David. Moi, j'avais préparé ici une réflexion sur la manière dont la définition capitaliste de la liberté, c'est-à-dire cette définition-là qui repose sur le choix, mène à une liberté que j'appellerais aliénante et anxiogène. Parce que quand on a trop de choix, puis qu'on a toujours des choix à faire, l'idée de faire du choix finit par devenir créer de l'anxiété. Alors, j'avais une belle présentation à faire là-dessus, mais on n'a plus le temps. Alors, à la place, c'est David qui va venir nous faire quelques citations. On t'écoute, David.
Ben, j'ai une phrase, justement, Catherine, qui va résumer tout ce que tu voulais sans doute dire. Alors, c'est tiré des souvenirs de jeunesse d'Ernest Renan, daté de 1883, et qui va comme suit. « En vérité, j'en viens à regretter la misérable part de liberté que Dieu nous a donnée. Nous en avons assez pour lutter, pas assez pour dominer la destinée, et tout juste ce qu'il faut pour souffrir. » Voilà.
T'en avais une autre, hein?
J'en ai une autre petite de Joseph Conrad de 1904, tirée du livre Nostromo, et qui va comme suit. « Les mots qu'on connaît bien prennent dans ce pays un sens cauchemardesque. La liberté, la démocratie, le patriotisme, le gouvernement, tous ont un parfum de folie et de meurtre.
Voilà. » Merci beaucoup, David. On va faire une pause musicale.
Alors, on s'en va dans les années yéyé en 1966 avec Madame Annie Philippe qui nous chante sa vision de la liberté.
Pourquoi faire tant d'efforts pour me mettre en cage? Crois-tu que l'on vive encore comme au Moyen-Âge? Nous nous aimons tous les deux, c'est la vérité. Et nous pouvons être heureux, mais n'oublie jamais que ma liberté c'est sacré, je ne laisserai personne m'en priver. Ma liberté, c'est sacré, je ne permets à personne d'y toucher. Ma liberté, c'est sacré, dis-toi bien que je ne pourrai plus te parler. Si tu voulais me voler cette sacrée liberté, tu voudrais qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Mais si tu veux mon avis, laisse faire le temps. Fais confiance à notre amour et tout peut changer. Mais en attendant ce jour, toi n'oublie jamais que ma liberté c'est sacré, je ne laisserai personne m'en priver. Ma liberté, c'est sacré, je ne permets à personne d'y toucher. Ma liberté, c'est sacré, dis-toi bien que je ne pourrai plus te parler. Si tu voulais me voler cette sacrée liberté. Jamais que ma liberté c'est sacré, je ne laisserai personne m'en priver. Ma liberté c'est sacré, je ne permets à personne d'y toucher. Ma liberté c'est sacré, je ne laisserai personne m'en priver. Ma liberté c'est sacré, je ne permets à personne d'y toucher.
Alors, nous sommes de retour en compagnie d'Adrien. C'est maintenant le temps de notre radio-fiction qui met en vedette Mimi et Coco. Et j'accueille donc son auteur, Adrien Dugas. On vous écoute.
Bonjour Catherine. Alors, mon texte s'intitule « Les buveurs de café de la rue Cartier ». Il est 4h30 de l'après-midi. Le soleil de septembre réchauffe la terrasse du Krieghof. C'est l'heure où les buveurs de café s'adonnent à leur plaisir quotidien. Sortant des bureaux, le beau monde commence à faire son entrée sur la rue. Les intellos, le nez en l'air, filent en direction du Jules et Jim. Au Krigoff, c'est l'heure de pointe. Chacun est assis à sa table, le nez dans sa tasse ou dans son livre. Mais il y a aussi des couples. Tipol bavarde avec Tigui, tandis que Coco est attablé avec Mimi, qui en a long à dire. Tu sauras, mon Coco, que mon boss m'a encore fait des propositions aujourd'hui. Des propositions? De quelle nature? Des plus explicites, mon cher. Après m'avoir longuement pénétré de son regard, il s'est approché et m'a chuchoté à l'oreille de sa voix la plus coulante. « Que dirais-tu, ma pouliche, d'aller prendre un verre avec ton patron préféré? »« Vraiment, Mimi? Il t'a parlé de même? »« Oui, mon gars. Mais tu penses bien que j'ai refusé. »« Les hommes d'affaires, moi, ça ne m'attire pas. Je n'aime que les intellectuels. »« Tu vois le beau jeune homme avec son air ténébreux qui tient la librairie du quartier juste en face? » Ça, c'est mon genre. Je suis allé lui acheter un livre hier juste pour l'entendre parler. Voilà un homme instruit qui a la parole en bouche. On dit qu'il fréquente surtout des intellos et qu'il a ses habitudes à la librairie Saint-Jean-Baptiste. La librairie Saint-Jean-Baptiste? Mais Mimi, c'est pas un endroit normal. C'est un vrai repère d'anarchistes et de paumés. Tu sauras, mon coco, qu'on ne peut pas être un intellectuel si on n'est pas anarchiste. J'ai lu ça dans le journal. D'ailleurs, on rencontre toutes sortes de monde dans ce lieu. Des flâneurs professionnels, des joueurs d'échecs et des gens qui portent le carré rouge. Il y a aussi des artistes et même un jeune philosophe appelé Merleau-Poutine qui prétend que tout est dans tout. On y rencontre aussi une femme aux idées avancées qui fait de l'espionnage télévisé. De l'espionnage télévisé? Mais qu'est-ce que c'est, Mimi? Je le sais pas au juste, mais ça m'a pas l'air très catholique. Le plus curieux, c'est que l'endroit est aussi fréquenté par un personnage loufoque, sorti tout droit d'une pièce de théâtre. Son dada, c'est de collectionner les articles de Richard Martineau dans un scrapbook. Ouais, c'est pas une place pour du monde comme nous autres, ça, Mimi. C'est pas tout. J'ai même entendu dire que des poètes à moitié fous, pire que des anarchistes, viennent à la librairie une fois par mois lire leurs écrits. Tu le sais, Mimi, moi, j'aime pas les poètes. Ça me déprime. Je préfère la rue Cartier, où l'on voit des gens propres et bien habillés qui pensent pas juste à la politique. Tu as bien raison, Coco. Vaut mieux se tenir avec du monde normal. En venant prendre notre café au Krigoff, on est en sécurité. On est sûr de pas avoir affaire à la police. Certainement, Mimi, mais assez parlé pour aujourd'hui. Regardons plutôt passer les gens sur le trottoir. C'est moins fatigant.
Merci beaucoup, Adrien. J'espère que les auditeurs vont prendre plaisir à suivre les péripéties de Mimi et Coco. En tout cas, nous, ici à la librairie Saint-Jean-Baptiste, on a beaucoup de plaisir à vous entendre. Alors, on va faire une pause musicale avant de revenir avec une lecture de notre libraire, David, qui va nous lire un extrait d'un texte de Aldous Huxley tiré de L'Éminence grise. Et on fait une pause musicale, l'homme que veut l'homme.
Alors, on va y aller, on va faire un petit tour au Chili. D'ailleurs, je vous rappelle que le 11, c'est très bientôt. C'est malheureusement l'anniversaire du coup d'État au Chili. Et puis, il y a une des personnes qui en a été victime, un poète et chansonnier qui s'appelle Victor Jara, qui était un grand supporter de M. Allende. Et puis, bon, en tout cas, je vais vous faire grâce à des tortures qu'il a subies, mais comme il était guitariste, on lui a carrément coupé les mains avant de le tuer, de l'assassiner sauvagement. Alors, Victor Jara nous interprète Canto Libre.
El verso es una paloma que busca donde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar.
canto libre que se quiere regalar.
Alors, bonjour, je vais vous lire un petit extrait d'un livre qu'on ne voit pas souvent d'Huxley, Aldous Huxley, qui s'appelle « L'éminence grise », qui a été publié, si ma mémoire est bonne, en 1943. Alors, voilà, un livre ultra intéressant et pluriforme, et je vous commence ça comme ça. Tout événement donné quelque part dans l'univers a comme condition déterminante tous les événements antérieurs et contemporains de tout l'univers. Cependant, ceux qui font profession de rechercher les causes de ce qui se passe autour d'eux ignorent habituellement la majorité écrasante des faits contemporains et antécédents. Dans chaque cas particulier, insiste-t-il, très peu des conditions déterminantes ont une signification pratique. Quand il s'agit d'événements simples, cela est assez vrai. Voici, par exemple, une bouilloire d'eau qui bout. Nous voulons découvrir pourquoi elle bout.
Nous cherchons, nous découvrons que du gaz brûle, nous faisons des expériences qui semblent prouver qu'il y a un rapport invariable entre l'ébullition et une élévation de la température. Après quoi, nous affirmons que la cause de l'ébullition pour les bouilloires est une source de chaleur voisine. L'affirmation est grossière, mais suffit à la plupart des besoins pratiques. Quand il s'agit d'événements simples, nous pouvons passer sous silence à peu près toutes leurs conditions déterminantes, sauf l'une ou très peu d'entre elles, et en avoir une compréhension suffisante pour les contrôler à des fins pratiques. Toutefois, cela n'est pas vrai dans le cas des événements complexes. Là, les conditions déterminantes qui ont une signification pratique sont beaucoup plus nombreuses. Les événements les plus complexes auxquels nous ayons affaire sont ceux de l'histoire humaine. Si nous voulons établir les conditions déterminantes de la guerre de 14-18, disons, nous sommes contraints, même dans un but aussi purement pratique que la conception de politique future, de considérer une grande variété de causes passées et contemporaines, locales et lointaines, psychologiques, sociologiques, politiques et économiques. Dresser la liste complète des causes ayant une importance pratique, leur importance relative, leur mode d'action réciproque, c'est une tâche excessivement difficile. Si ardue, en vérité, qu'elle dépasse la capacité de l'esprit humain dans son état de développement actuel. Mais, hélas, l'insolubilité d'un problème n'a jamais empêché les hommes et les femmes de proposer avec assurance des solutions. La méthode adoptée est toujours la même, l'excès de simplification. Ainsi, on ignore ce qui n'est pas les antécédents immédiats de l'événement considéré et l'on traite l'histoire comme si elle datait de la veille. En même temps, on abolit mentalement toutes les complexités embarrassantes. Les hommes sont réduits à des abstractions commodes. Les variétés de tempéraments, de talents et de motifs sont nivelées jusqu'à l'uniformité. L'événement paraît donc ainsi assez simple pour que l'on admette l'intervention de fort peu de causes, voire d'une seule. La conclusion théorique sert de guide à l'action future. Il est assez naturel que les résultats soient décevants. Simplifier est fatal, et il est impossible de déterminer entièrement et correctement toutes les causes significatives des événements complexes. Sommes-nous alors condamnés à ne jamais comprendre notre histoire et donc à ne jamais profiter des expériences du passé? Répondons que si l'intelligence ne sera probablement jamais totale, nous pouvons cependant comprendre assez pour satisfaire au moins quelques-uns de nos buts pratiques. Par exemple, nous pouvons probablement en découvrir assez sur les causes de nos récentes catastrophes pour pouvoir, si nous le voulons, définir des politiques un peu moins suicidaires que celles que nous avons menées dans le passé. Aucun épisode, donc, de l'histoire ne peut être absolument sans rapport avec un épisode consécutif. Mais certains événements sont reliés entre eux pour ce qui nous concerne pratiquement et de manière... Blablabla. Alors voilà, j'avais lu une phrase de trop, pardonnez-moi.
D'accord. Alors c'est ça. Je me demandais ce qui se passait. Donc refais-nous peut-être la conclusion pour que ça...
Oui,
la dernière phrase pour qu'on comprenne la fin du...
Ben, en fait, c'était que... Ben, je vais vous la lire précisément parce que mes mots à moi sonnent tout croche. Alors, mais certains événements... Ah ben non, c'est celle qu'il fallait pas que je lise. Aucun épisode de l'histoire, donc, ne peut être absolument sans rapport avec un épisode consécutif.
Ah, voilà.
Voilà. Et je lis, bon, en fait, ça n'a pas tellement rapport avec la liberté, mais je lance cette piste de réflexion-là. Quelle suite d'événements nous ont menés à notre perte de liberté actuelle? Voilà.
Merci beaucoup. C'était notre libraire, David Laterreur, qui nous a lu un extrait d'un texte de... Aldous Huxley. On va faire une pause musicale.
Alors, on va y aller avec... je t'avais fait comme suggestion que à chaque semaine, on présente un poète mis en chanson. Alors, on va commencer avec un poète d'il y a très longtemps, un certain Rutebeuf. Et puis, un autre monsieur, un grand poète un peu plus actuel, même s'il nous a quittés aussi, qui s'appelle Léo Ferré, qui a pris des extraits de poèmes de Rutebeuf pour, comme on dit en bon français, gosser une chanson. Qui s'intitule « Pauvre Rutebeuf » et je vous en présente l'interprétation d'un talent local, Madame Micheline Bouzigon.
Que sont mes amis devenus j'avais d'aussi près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Que sont amis que vent emporte. Et il vantait devant ma porte, les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise à honte, en quelle manière. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droite au cul qu'en bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Le mal ne s'est pas seul venu, tout ce qui m'était à venir m'est à venir. L'espérance des lendemains, ce sont nos fêtes.
Belle, belle chanson. Merci beaucoup, l'homme qui a vu l'homme. Pour terminer notre réflexion sur la liberté, j'ai envie, tiens, de, avant de passer au dernier texte, de vous faire une citation de Nietzsche. Vous la prendrez comme il vous convient. Choisis un maître, peu importe lequel, et obéis longtemps. Sinon, tu périras et tu perdras toute estime de toi-même. C'était un peu une blague. On va terminer avec un texte de Raphaël Antovan sur la contrainte et le consentement. Raphaël Antovan est un philosophe qui a une émission sur France Culture qui s'appelle « Le gai savoir » que je vous conseille vivement si vous avez le temps de l'écouter. J'ai trouvé un de ses textes dans Philosophie Magazine de juillet 2008. En transformant la contrainte en consentement, elle nous permet de devenir ce que nous sommes et de vivre délibérément au présent. L'histoire de ma vie, gémit Francis Scott Fitzgerald, est celle du conflit entre une furieuse démangeaison d'écrire et un concours de circonstances destiné à m'en empêcher. En d'autres termes, c'est pas de ma faute si je suis pas libre. Ce n'est pas librement que j'ai bâti la prison de hasard où croupit mon talent. Mauvaise foi. Que Jean-Paul Sartre parodie quand il écrit « Les circonstances ont été contre moi. Je valais beaucoup mieux que ce que j'ai été. Je n'ai pas écrit de très bons livres. C'est parce que je n'ai pas eu de loisirs pour le faire. Sont restés donc chez moi, inemployés et entièrement viables, une foule de possibilités qui me donnent une valeur que la simple série de mes actes ne permet pas d'inférer. » L'orgueilleux qui prend la liberté pour la possibilité de faire ce qu'il veut oppose immédiatement, comme David à Goliath, le libre arbitre aux contraintes qui l'étouffent, la volonté individuelle à la pesanteur du destin. Il est aisé dans ces conditions de se donner le beau rôle de victime. Si la liberté n'est que le libre arbitre, il suffit alors, pour rendre les armes, de désirer plus qu'on ne peut, de vouloir plus qu'on ne conçoit. Bref, d'être mortel quand on est un homme. Comment le monde serait-il un obstacle si je n'étais pas moi-même l'origine de mes choix? Comment aurais-je un destin si je n'avais pas l'audace de m'insurger contre lui? Comment serais-je héroïque si ma liberté n'était pas la citadelle en péril où ma volonté, délibérément avant d'agir, résiste vaillamment aux injonctions de la Providence? Où est le mérite? Où est la gloire? Si, cessant de rêver les yeux ouverts, j'accepte l'évidence que, loin d'être inauguraux, mes choix me sont dictés par la voix silencieuse d'une nécessité intime et sans but. David et Goliath, en vérité, se tiennent la main. Les desseins de la Providence sont les rejetons du libre arbitre qui créent, de toute pièce, le fantôme de la contrainte. Pourtant, de l'écrivain qui n'assume pas son génie à l'homme qui se trouve toujours une bonne raison de ne pas honorer le rendez-vous pris avec un fâcheux, la délibération, qui est la signature du libre-arbitre, est toujours postérieure à la décision qu'elle prétend renseigner. À la façon dont le Charlus de Proust décline une invitation à dîner comme suit. « Impossible de venir ce soir, mensonge suivra. » Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais parce que nous la désirons qu'elle est bonne, Spinoza. Autrement dit, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. L'alcoolique de mauvaise foi se persuade qu'il boit librement en trouvant, à point nommé, des vertus imaginaires à la boisson, voire une ordonnance qui lui permet de le faire. La délibération n'est pas un préalable, mais un mensonge, une justification, un testament. Délibérer, c'est avoir à l'avance le sentiment tardif d'avoir pu faire autrement. Tout se passe, écrit Yankelevitch, comme si le moment des hésitations n'était en quelque sorte qu'une petite comédie inconsciente que nous nous jouerions à nous-mêmes pour légitimer rétrospectivement une décision qui, au fond, était arrêtée bien à l'avance dans notre esprit. C'est au futur antérieur qu'on délibère. La liberté est un récit qui n'échappe ni au destin, ni au pouvoir, mais leur oppose le consentement et la puissance. Intransitive et libre elle-même de toute adversité, la liberté n'est pas un bras d'honneur à la Providence, mais l'art d'être l'ami du présent qui passe. Beaucoup vivent et meurent sans avoir connu la vraie liberté, constate Henri Bergson. Il faut chercher la liberté dans une certaine nuance ou qualité de l'action même, et non dans un rapport de cet acte avec ce qu'il n'est pas ou avec ce qu'il aurait pu être. La liberté n'est ni l'arrogance ni le panache, mais l'heureuse métamorphose de la contrainte en consentement. Il y a plus de liberté dans la spontanéité animale de l'enfant que dans le caprice de l'adulte qui croit trancher entre une série de choix possibles. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on désire, ni vouloir ce qu'on fait, ni même se rendre où l'on veut, mais devenir ce qu'on est, aimer ce qu'on devient, et marcher, comme par hasard, dans ses propres pas. Comme dit Montaigne, « Quand je danse, je danse. » Voilà, c'était une réflexion donc de Raphaël Antovan sur la liberté. C'est comme ça qu'on devrait conclure l'émission. Je pense qu'il reste quelques minutes. Est-ce que notre libraire a une citation à rajouter? Non, je pense que notre libraire est parti fumer. Alors écoutez, je vais faire les salutations d'usage, remercier mes collaborateurs et laisser l'homme qui a vu l'homme nous terminer l'émission avec une pièce musicale. Donc, je remercie David, notre libraire et notre hôte. Merci à Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission. Merci à mes invités Bernard Grondin, Patrick Desbiens et Adrien Dugas. À mon collaborateur, mon nouveau collaborateur, l'homme qui a vu l'homme, pour la mise en onde et le choix des pièces musicales. Et enfin, à l'essentiel, Big Nick, qui nous héberge et nous diffuse sur son site Radio Fiat Lux. Bonjour aux auditeurs aussi de CKIA. C'était La Voix de la librairie et je laisse le dernier mot à L'Homme qui a vu l'homme.
On va terminer ça avec un groupe japonais qui s'appelle 12 Girls Band et qui, comme son nom l'indique, sont 13 et jouent de la musique avec des instruments traditionnels et des instruments de nos jours. Alors, on écoute un petit bout de ça pour compléter l'émission.